Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Retour donc dans nos lectures en liberté au roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants. Le lundi, Jules Desmarets, obligé d'être à la bourse à son heure accoutumée, ne sortit pas sans aller, suivant son habitude, demander à sa femme si elle voulait profiter de sa voiture. « Non, dit-elle, il fait trop mauvais temps pour se promener. » En effet, il pleuvait à verse. Il était environ 2h30 quand M. Desmarets se rendit au parquet et au trésor. À 4h, en sortant de la bourse, il se trouva nez à nez devant M. de Maulincourt qui l'attendait là, avec la pertinacité fiévreuse que donnent la haine et la vengeance. « Monsieur, j'ai des renseignements importants à vous communiquer, » dit l'officier, en prenant l'agent de change par le bras. « Écoutez, je suis un homme trop loyal pour avoir recours à des lettres anonymes qui troubleraient votre repos. J'ai préféré vous parler. » Enfin, croyez que s'il ne s'agissait pas de ma vie, je ne m'immiscerais certes en aucune manière dans les affaires d'un ménage. Quand même, je pourrais m'en croire le droit. Si ce que vous avez à me dire concerne Madame Desmarets, répondit Jules, je vous prierai, monsieur, de vous taire. Si je me taisais, monsieur, vous pourriez voir avant peu Madame Jules sur les bancs de la cour d'assises à côté d'un forçat. Faut-il me taire maintenant ? Jules pâlit, mais sa belle figure reprit promptement un calme faux, puis, entraînant l'officier sous un des auvents de la bourse provisoire où il se trouvait alors, il lui dit d'une voix que voilait une profonde émotion intérieure, « Monsieur, je vous écouterai. » Mais il y aura en nous un duel à mort si... Oh, j'y consens ! S'écria M. de Maulincourt. J'ai pour vous la plus grande estime. Vous parlez de mort, monsieur. Vous ignorez sans doute que votre femme m'a peut-être fait empoisonner samedi soir. Oui, monsieur, depuis avant-hier, il se passe en moi quelque chose d'extraordinaire. Mes cheveux me distillent intérieurement à travers le crâne une fièvre et une langueur mortelles, et je sais parfaitement quel homme a touché mes cheveux pendant le bal. Monsieur de Maulincourt raconta sans en omettre un seul fait et son amour platonique pour Madame Jules et les détails de l'aventure qui commence cette scène. Tout le monde l'eût écouté avec autant d'attention que l'agent de change. Mais le mari de Madame Jules avait le droit d'en être plus étonné que qui que ce fût au monde. Là se déploya son caractère. Il fut plus surpris qu'abattu. Devenu juge et juge d'une femme adorée, il trouva dans son âme la droiture du juge, comme il en prit l'inflexibilité. Amant encore, il songea moins à sa vie brisée qu'à celle de cette femme. Il écouta non sa propre douleur, mais la voix lointaine qui lui criait « Clémence ne saurait mentir, pourquoi te trahirait-elle ? » Monsieur, dit l'officier aux gardes en terminant. Certain d'avoir reconnu samedi soir dans M. de Funcal ce Ferragus que la police croit mort, j'ai mis aussitôt sur ses traces un homme intelligent. En revenant chez moi, je me suis souvenu par un heureux hasard du nom de Madame Ménardy, citée dans la lettre de cette Ida, la maîtresse présumée de mon persécuteur. Muni de ce seul renseignement, mon émissaire me rendra promptement compte de cette épouvantable aventure, car il est plus habile à découvrir la vérité que ne l'est la police elle-même. Monsieur, répondit l'agent de change, je ne saurais vous remercier de cette confidence. Vous m'annoncez des preuves, des témoins, je les attendrai. Je poursuivrai courageusement la vérité de cette affaire étrange, mais vous me permettez de douter jusqu'à ce que l'évidence des faits me soit prouvée. En tout cas, vous aurez satisfaction, car vous devez comprendre qu'il nous en faut une. Monsieur Jules revint chez lui. « Qu'as-tu, Jules ?» lui dit sa femme. « Tu es pâle à faire peur. » Le temps est froid, dit-il, en marchant d'un pas lent dans cette chambre où tout parlait de bonheur et d'amour, cette chambre si calme où se préparait une tempête meurtrière. « Tu n'es pas sorti aujourd'hui, reprit-il machinalement en apparence. » Il fut poussé sans doute à faire cette question par la dernière des mille pensées qui s'était secrètement enroulée dans une méditation lucide, quoique précipitamment activée par la jalousie. « Non, répondit-elle avec un faux accent de candeur. En ce moment, Jules aperçut dans le cabinet de toilette de sa femme quelques gouttes d'eau sur le chapeau de velours qu'elle mettait le matin. Monsieur Jules était un homme violent, mais aussi plein de délicatesse, et il lui répugna de placer sa femme en face d'un démenti. Dans une telle situation, tout doit être fini pour la vie entre certains êtres. Cependant, ces gouttes d'eau furent comme une lueur qui lui déchira la cervelle. Il sortit de sa chambre, descendit à la loge et dit à son concierge, après s'être assuré qu'il y était seul, « Foucrot, 100 écus de rente si tu dis vrai, chassé si tu me trompes, et rien si, m'ayant dit la vérité, tu parles de ma question et de ta réponse. » Il s'arrêta pour bien voir son concierge qu'il attira sous le jour de la fenêtre et reprit. « Madame est-elle sortie ce matin ?»«
Oh, Madame est sortie à 3h15 et je crois l'avoir vue rentrer il y a une demi-heure. »«
Cela est vrai, sur ton honneur ?»«
Oui, monsieur. »
Tu auras la rente que je t'ai promise, mais si tu parles, souviens-toi de ma promesse, alors tu perdrais tout. Jules revint chez sa femme. Clémence, lui dit-il, j'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans mes comptes de maison. Ne t'offense donc pas de ce que je vais te demander. Ne t'ai-je pas remis 40 000 francs depuis le commencement de l'année ?
« Plus, dit-elle, 47. »«
En trouverais-tu bien l'emploi ?»«
Mais oui, dit-elle, d'abord j'avais à payer plusieurs mémoires de l'année dernière. »«
Je ne saurais rien ainsi, se dit Jules, je m'y prends mal. »
En ce moment, le valet de chambre de Jules entra et lui remit une lettre qu'il ouvrit par contenance, mais il la lut avec avidité. Lorsqu'il eut jeté les yeux sur la signature.
Monsieur, dans l'intérêt de votre repos et du nôtre, j'ai pris le parti de vous écrire sans avoir l'avantage d'être connu de vous. Mais ma position, mon âge et la crainte de quelque malheur me forcent à vous prier d'avoir de l'indulgence dans une conjoncture fâcheuse où se trouve notre famille désolée. Monsieur Auguste de Maulincourt nous a donné depuis quelques jours des preuves d'aliénation mentale, et nous craignons qu'il ne trouble votre bonheur par des chimères dont il nous a entretenus, monsieur le commandeur et moi, pendant un premier accès de fièvre. Nous vous prévenons donc de sa maladie, sans doute guérissable encore, elle a des effets si graves et si importants pour l'honneur de notre famille et l'avenir de mon petit-fils, que je compte sur votre entière discrétion.
Si monsieur le commandeur ou moi, monsieur, avions pu nous transporter chez vous, nous nous serions dispensés de vous écrire. Mais je ne doute pas que vous n'ayez égard à la prière qui vous est faite ici par une mère de brûler cette lettre. Agréez l'assurance de ma parfaite considération. Baronne de Maulincourt, née de Rieux.
Combien de tortures !
S'écria Jules. Mais que se passe-t-il donc en toi ? Lui dit sa femme, en témoignant une vive anxiété.
J'en suis arrivé, répondit Jules, à me demander si c'est toi qui me fais parvenir cet avis pour dissiper mes soupçons, reprit-il en lui jetant la lettre. Ainsi juge de mes souffrances.
Le malheureux, dit madame Jules, en laissant tomber le papier, je le plains, quoiqu'il me fasse bien du mal.
Tu sais qu'il m'a parlé. Ah, tu es allé le voir malgré ta parole, dit-elle, frappée de terreur.
Clémence, notre amour est en danger de périr, et nous sommes en dehors de toutes les lois ordinaires de la vie. Laissons donc les petites considérations au milieu des grands périls. Écoute, dis-moi pourquoi tu es sortie ce matin.
Les femmes se croient le droit de nous faire quelquefois de petits mensonges.
Ne se plaisent-elles pas souvent à nous cacher des plaisirs qu'elles nous préparent ? Tout à l'heure, tu m'as dit un mot pour un autre sans doute, un non pour un oui.
Il entra dans le cabinet de toilette et en rapporta le chapeau.
Tiens, vois, sans vouloir faire ici le Bartolo, ton chapeau t'a trahi.
Ces taches ne sont-elles pas des gouttes de pluie ?
Donc tu es sorti en fiacre et tu as reçu ces gouttes d'eau, soit en allant chercher une voiture, soit en entrant dans la maison où tu es allé, soit en la quittant.
Mais une femme peut sortir de chez elle, forte innocemment, même après avoir dit à son mari qu'elle ne sortirait pas.
Il y a tant de raisons pour changer d'avis.
Avoir des caprices, n'est-ce pas un de vos droits ?
Vous n'êtes pas obligé d'être conséquente avec vous-même. Tu auras oublié quelque chose, un service à rendre, une visite ou quelque bonne action à faire.
Mais rien n'empêche une femme de dire à son mari ce qu'elle a fait.
Rougit-on jamais dans le sein d'un ami ?
Eh bien, ce n'est pas le mari jaloux qui te parle, ma Clémence. C'est l'amant, c'est l'ami, le frère.
Il se jeta passionnément à ses pieds.
Parle, non pour te justifier, mais pour calmer d'horribles souffrances.
Je sais bien que tu es sorti.
Eh bien, qu'as-tu fait ? Où es-tu allé ?
Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, on n'avait plus de mère, et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, où qu'elle s'élevait comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, elle remontait par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait par les nuits de gelée la voûte étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. l'été par les chauds crépuscules, a rencontré Jules, qui était si caressant. Restait la soirée entière avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était d'Attierce, qui soutient la Gerse. Aussi l'adolescent, voyant qu'elle ne marchait pas au ventre, d'un coup de surin, lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de ses noces. Rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de Marthe, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent.
Lectures en liberté. Denis Flageol.
Ferragus, chef des dévorants, Honoré de Balzac. Oui. Je suis sorti, Jules. Répondit Clémence, d'une voix altérée, quoique son visage fût calme. Mais ne me demande rien de plus. Attends avec confiance, sans quoi tu te créeras des remords éternels. Jules, mon Jules, la confiance est la vertu de l'amour. Je te l'avoue, en ce moment, je suis trop troublé pour te répondre. Mais je ne suis point une femme artificieuse, et je t'aime, tu le sais. Au milieu de tout ce qui peut ébranler la foi d'un homme et éveiller la jalousie, car je ne suis donc pas le premier dans ton cœur, je ne suis donc pas toi-même, eh bien Clémence, j'aime encore mieux te croire. Croire en ta voix, croire en tes yeux. Si tu me trompes, tu mériterais, oh, mille morts. Dit-elle en l'interrompant. Moi, je ne te cache aucune de mes pensées, et toi, tu... Chut ! Dit-elle. Notre bonheur dépend de notre mutuel silence. Ah, je veux tout savoir ! S'écria-t-il, dans un violent accès de rage. En ce moment, des cris de femmes se firent entendre. Et les glapissements d'une petite voix aigre arrivèrent de l'antichambre jusqu'aux deux époux. « J'entrerai, je vous dis » cria-t-on. « Oui, j'entrerai, je veux la voir, je la verrai !» Jules et Clémence se précipitèrent dans le salon et ils virent bientôt les portes s'ouvrir avec violence. Une jeune femme se montra tout à coup, suivie de deux domestiques qui dirent à leur maître « Monsieur, cette femme veut entrer ici malgré nous. Nous lui avons déjà dit que madame n'y était pas. Elle nous a répondu qu'elle savait bien que madame était sortie, mais qu'elle venait de la voir rentrer. Elle nous menace de rester à la porte de l'hôtel jusqu'à ce qu'elle ait parlé à madame. » « Retirez-vous, » dit monsieur Desmarets à ses gens. « Que voulez-vous, mademoiselle » ajouta-t-il. En se tournant vers l'inconnu. Cette demoiselle était le type d'une femme qui ne se rencontre qu'à Paris. Elle se fait à Paris, comme la boue, comme le pavé de Paris, comme l'eau de la Seine se fabrique à Paris, dans de grands réservoirs à travers lesquels l'industrie la filtre 10 fois avant de la livrer aux carafes à facettes où elle scintille, éclaire et pure de fangeuse qu'elle était. Aussi est-ce une créature véritablement originale. 20 fois saisi par le crayon du peintre, par le pinceau du caricaturiste, par la plombagine du dessinateur, elle échappe à toutes les analyses parce qu'elle est insaisissable, dans toutes ses modes, comme l'est la nature, comme l'est ce fantasque Paris. En effet, elle ne tient au vice que par un rayon et s'en éloigne par les 1000 autres points de la circonférence sociale. D'ailleurs, elle ne laisse deviner qu'un trait de son caractère, le seul qui la rende blâmable. Ses belles vertus sont cachées. Son naïf dévergondage, elle en fait gloire. Incomplètement traduite dans les drames et les livres où elle a été mise en scène avec toutes ses poésies, elle ne sera jamais vraie que dans son grenier parce qu'elle sera toujours autre part ou calomniée ou flattée. Riche, elle se vicie. Pauvre, elle est incomprise. Et cela ne saurait être autrement. Elle a trop de vices et trop de bonnes qualités. Elle est trop près d'une asphyxie sublime ou d'un rire flétrissant. Elle est trop belle et trop hideuse. Elle personnifie trop bien Paris, auquel elle fournit des portières édentées, des laveuses de linge, des balayeuses, des mendiantes, parfois des comtesses impertinentes, des actrices admirées, des cantatrices applaudies. Elle a même donné jadis 2 quasi-reines à la monarchie. Qui pourrait saisir un tel protée ? Elle est toute la femme, moins que la femme, plus que la femme. De ce vaste portrait, un peintre de mœurs ne peut rendre que certains détails. L'ensemble est l'infini. C'était une grisette de Paris. Mais la grisette dans toute sa splendeur. La grisette en fiacre, heureuse, jeune, belle, fraîche, mais grisette et grisette à griffes, à ciseaux, hardie comme une espagnole, hargneuse comme une prude anglaise réclamant ses droits conjugaux, coquette comme une grande dame, plus franche et prête à tout, une véritable lionne sortie du petit appartement dont elle avait tant de fois rêvé les rideaux de calicot rouge, le meuble en velours d'Utrecht, la table à thé, le cabaret de porcelaine à sujet peint, la causeuse, le petit tapis de moquette, la pendule d'albâtre et les flambeaux sous verre, la chambre jaune, le molle édredon, bref, toutes les joies de la vie de grisette. La femme de ménage, ancienne grisette elle-même, mais grisette à moustache et à chevrons, les parties de spectacle, les marrons à discrétion, les robes de soie et les chapeaux à gâcher, enfin, toutes les félicités calculées au comptoir des modistes, moins l'équipage qui n'apparaît dans les imaginations du comptoir que comme un bâton de maréchal dans les songes du soldat. Oui, cette grisette avait tout cela, pour une affection vraie, ou malgré l'affection vraie, comme quelque autre l'obtienne souvent pour 1 heure par jour, espèce d'impôt insouciamment acquitté sous le griffe d'un vieillard. La jeune femme qui se trouvait en présence de monsieur et madame Jules avait le pied si découvert dans sa chaussure qu'à peine voyait-on une légère ligne noire entre le tapis et son bas blanc. Cette chaussure, dont la caricature parisienne rend si bien le trait, est une grâce particulière à la grisette parisienne. Mais elle se trahit encore mieux aux yeux de l'observateur par le soin avec lequel ses vêtements adhèrent à ses formes, qu'il dessine nettement. Aussi l'inconnue était-elle, pour ne pas perdre l'expression pittoresque créée par le soldat français, ficelée dans une robe verte à guimpe, qui laissait deviner la beauté de son corsage, alors parfaitement visible. Car son châle de cachemire ternaud, tombant à terre, n'était plus retenu que par les 2 bouts qu'elle gardait entortillés à demi dans ses poignets. Elle avait une figure fine, des joues roses, un teint blanc, des yeux gris étincelants, un front bombé très proéminent, des cheveux soigneusement lissés, qui s'échappaient de son petit chapeau en grosses boucles sur son cou.
« Je me nomme Ida, monsieur. Et si c'est là madame Jules, à laquelle j'ai l'avantage de parler, je venais pour lui dire tout ce que j'ai sur le cœur contre elle. »
C'est très mal, quand on a son affaire faite et qu'on est dans ses meubles, comme vous êtes vous ici, de vouloir enlever à une pauvre fille un homme avec lequel j'ai contracté un mariage moral et qui parle de réparer ses torts en m'épousant à la municipalité. Il y a bien assez de jolis jeunes gens dans le monde, pas vrai, monsieur, pour se passer ces fantaisies sans venir me prendre un homme d'âge qui fait mon bonheur. Tiens, je n'ai pas eu un bel hôtel, moi, mais j'aime mon amour et je haïs les belles hommes et l'argent. Je suis tout cœur et... »
Madame Jules se tourna vers son mari.
« Vous me permettez, monsieur, de ne pas en entendre davantage, » dit-elle en rentrant dans sa chambre.
« Si cette dame est avec vous, j'ai fait des brioches à ce que je vois, mais tant pire !»
reprit Ida.
« Pourquoi vient-elle voir monsieur Ferragus tous les jours ?»«
Vous vous trompez, mademoiselle, » dit Jules, stupéfait. « Ma femme est incapable. »«
Ah, vous êtes donc mariés, vous deux !» dit la grisette en manifestant quelques surprises. « C'est alors bien plus mal, monsieur, pas vrai, à une femme qui a le bonheur d'être mariée en légitime mariage d'avoir des rapports avec un homme comme Henri. »«
Mais quoi Henri ?»
dit monsieur Jules, en prenant Ida et l'entraînant dans une pièce voisine pour que sa femme n'entendît plus rien.
« Eh bien, monsieur Ferragus !»« Mais il est mort !» dit Jules.
« Ah, c'te farce ! Je suis allé à Franconi avec lui hier au soir et il m'a ramené comme cela se doit.
D'ailleurs, votre dame peut vous en donner des nouvelles. N'est-elle pas allée le voir à 3 heures ?
Je sais bien. Je l'ai attendu dans la rue.
Rapport à ce qu'un aimable homme, monsieur Justin, que vous connaissez peut-être, un petit vieux qui a des breloques et qui porte un corset, m'avait prévenu que j'avais une dame Jules pour rivale.
Ce nom-là, monsieur, est bien connu parmi les noms de guerre. Excusez, puisque c'est le vôtre, mais quand Madame Jules sera une duchesse de la cour, Henri est si riche qu'il peut satisfaire toutes ses fantaisies. Mon affaire est de défendre mon bien, et j'en ai le droit, car moi, je l'aime, Henri. C'est ma première inclinaison. Et il y va de mon amour et de mon sort à venir. Je ne crains rien, monsieur, je suis honnête, et je n'ai jamais menti ni volé le bien de qui que ce soit. Ce serait une impératrice qui serait ma rivale, que j'irais à elle tout droit. Et si elle m'enlevait mon mari futur, je me sens capable de la tuer, toute impératrice qu'elle serait, parce que toutes les belles femmes sont égales, monsieur.
Assez, assez, dit Jules, où demeurez-vous ?
Rue de la Corderie du Temple, numéro 14, monsieur. Ida Gruget, couturière en corset pour servir, mais nous en faisons beaucoup pour les messieurs.
Et où demeure l'homme que vous nommez Ferragus ?
Mais monsieur, dit-elle en se pinçant les lèvres, ce n'est d'abord pas un homme.
C'est un monsieur plus riche que vous, de l'être peut-être. Mais pourquoi est-ce que vous me demandez son adresse quand votre femme la sait ? Il m'a dit de ne point la donner. Est-ce que je suis obligé de vous répondre ?
Je ne suis, Dieu merci, ni au confessionnal, ni à la police, et je ne dépends que de moi.
Et si je vous offrais 20, 30, 40 000 francs pour me dire où demeure monsieur Ferragus ?
Ah, 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 ni, i, ni, mon petit ami, c'est fini,
dit-elle en joignant à cette singulière réponse un geste populaire.
Il n'y a pas de somme qui me fasse dire cela. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Par où est-ce qu'on sort d'ici ?
Jules, atterré, laissa Ida partir sans songer à elle. Le monde entier semblait s'écrouler sous lui, et au-dessus de lui, le ciel tombait en éclats.
« Monsieur est servi, » lui dit son valet de chambre.
Le valet de chambre et le valet d'office attendirent dans la salle à manger pendant environ un quart d'heure, sans voir arriver leur maître.
« Madame ne dînera pas. » vint dire la femme de chambre.
« Qu'y a-t-il donc, Joséphine ? » demanda le valet.
« Bah, je ne sais pas, » répondit-elle.
« Madame pleure et va se mettre au lit.
Monsieur avait sans doute une inclination en ville et cela s'est découvert dans un bien mauvais moment, entendez-vous ? Je ne répondrai pas de la vie de madame, tous les hommes sont si gauches. Ils vous font toujours des scènes sans aucune précaution. » Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc ce passage du roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.